France Culture.
Vous écoutez France Culture, il est midi.
France Culture. Les midis de culture. Chloé Cambrelin.
Bonjour et bienvenue dans les midis cette semaine en direct et en public d'Avignon, Cloître Saint-Louis. Quatrième jour de festival, de découvertes, de surprises, de débats, de questions, de créations. Nous en parlons avec Thiago Rodriguez, directeur du festival qui crée ici La Distance. Nous évoquerons aussi bien sûr l'invitation faite cette année à la langue arabe et poursuivrons sur ce thème après le journal avec l'écrivaine Leïla Slimani qui lira ce soir en musique dans le cadre des fictions de France Culture « Assaut contre la frontière », texte qui nous parle de son rapport intime à cette langue et qui est inédit. Bonjour Thiago Rodriguez.
Bonjour Chloé, merci pour l'invitation.
Merci beaucoup d'être avec nous, merci d'autant plus que votre pièce « La distance » joue à midi. Elle est donc en train d'exister sur scène pendant que nous en parlons ici. Et justement, nous voulions commencer avec cette création qui interroge à sa façon cette question d'être ensemble, qui est le mot « ensemble » que vous avez placé en exergue de cette 79e édition. La distance, c'est celle qui sépare un père sur Terre de sa fille, partie sur Mars, inventée peut-être un monde meilleur, un autre monde, en tout cas, que celui de la Terre, frappé par les effondrements successifs dus au réchauffement climatique. Alors, nous savons, Thiago Rodriguez, que vous écrivez pour et avec les comédiennes et les comédiens. Ici, Adama Diop, avec qui vous aviez déjà travaillé pour La Cerisée, et Alison Deschamps, extraordinaire. Pouvez-vous nous parler d'eux et de la manière dont est née, avec, dans un premier temps, je crois surtout, Adama Diop, cette pièce ?
Effectivement, le point de départ de la pièce est l'envie partagée entre moi et Adama Diop de travailler ensemble. Et c'est toujours comme ça chez moi, avec mes projets. Tout commence avec quelques personnes, parce que le théâtre est un temps de travail très profond, parfois très personnel. La vie est courte, et même si c'est un lieu commun, le privilège de pouvoir choisir avec qui on passe un bout de nos vies, il est une énorme responsabilité. Alors on s'est choisi, Adama et moi, pour passer du temps ensemble et faire du théâtre ensemble. Et rapidement, en discutant sur qu'est-ce qu'on voudrait traiter, alors qu'il y avait l'envie que j'écrive pour Adama et que je puisse mettre en scène, on avait en commun déjà l'idée que nous sommes des immigrants qui travaillent en France, Adama sénégalais, moi portugais, et alors avec un rapport à la famille qui passe aussi par la distance, par des relations longue distance. Dans mon cas particulièrement aussi, mon rapport avec ma fille qui a 23 ans mais qui habite Lisbonne, qui finit ses études et qui arrive bientôt au Festival d'Avignon, dont un sourire encore plus large de ma part, dans deux jours elle est là. Et voilà, et on parlait de cette question de les nouvelles générations, la distance, et soudain l'idée d'un père et une fille à l'avenir qui sont séparés en deux planètes différentes. En 2077, on s'est dit le père est resté sur Terre et la fille est partie sur Mars pour coloniser Mars, et comment il pouvait avoir encore un rapport de pas longue distance mais longue distance nous permettait de penser à la fois le rapport familial, l'amour, mais aussi comment ce rapport familial et cette idée d'amour va évoluer avec le temps, surtout quand on voit aujourd'hui que ce qui est la légitime aspiration de chaque nouvelle génération de vivre mieux que ses ancêtres commence à être une impossibilité. Aujourd'hui, on voit que c'est très probable, scientifiquement, objectivement, que les prochaines générations vont vivre pire. Qu'est-ce que ça va faire à la façon dont on pense le monde ? C'est vrai que pas toutes les générations ont vécu mieux que leurs parents, parce qu'il y a eu des guerres, parce qu'il y a eu des famines, parce qu'il y a eu partout des grands phénomènes qui ont empiré la vie des gens. Mais d'un autre côté, l'aspiration légitime, elle était toujours là. Aujourd'hui, je pense qu'on risque de la voir disparaître si on n'est pas capable collectivement d'accélérer dans une transition écologique absolument nécessaire, vitale, existentielle même pour la biodiversité et pour l'espèce humaine. Et donc c'est ça, cette idée, qu'est-ce que ça va faire à l'idée d'espoir ? Comment vont les nouvelles générations avoir encore de l'espoir ?
Adama Diop donc est Alison Deschamps, qui est quand même phénoménale. Comment vous l'avez rencontrée, connue, cette jeune comédienne?
Après avoir eu cette idée avec Adama, on s'est mis à élargir l'équipe. Il y a un tas de complices artistiques, à la lumière, au décor, au costume, à la musique, qui travaillent habituellement avec moi et qui avaient déjà travaillé avec Adama. Et après, on cherchait cette jeune comédienne avec aussi le souci de transmission artistique vers une nouvelle génération. Et quand on a vu Alison Deschamps, qui vient de finir l'école du TNB à Rennes et qui est une actrice exceptionnelle, plus que prometteuse, on était fascinés par son travail. On a voulu immédiatement passer aussi un bout de nos vies avec elle.
Pendant des siècles sur Terre, vous avez utilisé les pierres des ruines pour essayer de construire quelque chose de nouveau. Toujours les mêmes pierres, les pierres de la mémoire, de l'histoire. Tout s'écroulait et vous cherchiez dans les décombres les pierres qui vous serviraient à construire un monde nouveau. Génération après génération, vous avez dit, apprenons du passé pour ne pas répéter les mêmes erreurs. Utilisons les pierres des ruines, construisons mieux. Toujours convaincu que chaque nouvelle construction allait changer le monde, mais sans voir que ces pierres sont désespérées, que tout ce que vous construirez sera désespéré. Ici, sur Mars, nous voulons oublier l'histoire. Nous, les oubliants, nous utiliserons de nouvelles pierres pour construire un monde vraiment nouveau. Ça, oui, c'est des raisons d'espérer. Nous avons enfin des raisons d'espérer. J'ai de l'espoir. Désolé, je dois y aller. Fin de message.
Début de message. Salut ma chérie. Tu sais quoi? Tu avais raison. Dans ton message, tu disais que tu savais exactement ce que j'allais dire. Tu avais raison. Tu me déçois. Comment c'est possible que tu ne m'aies rien dit? Pourquoi tu ne m'en as pas parlé? Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me traites comme ça? Comment tu peux partir pour toujours sans prévenir, sans même me donner la chance de te dire au revoir? Comment tu peux me faire ça? Tu savais que j'allais te dire tout ça et tu avais raison. Mais tu avais aussi raison de dire qu'il n'est pas question de moi. Il est question de toi. Le plus important, c'est que c'est ta vie. Mais justement, c'est ta vie!
Alors, on comprend que les deux personnages correspondent d'une planète à l'autre. Sur scène, ils sont sur un plateau rond qui tourne, une tournette, comme vous l'appelez. Chacun est sur une moitié de cercle, si bien que nous ne les voyons pas toujours. Eux-mêmes ne se voient pas. La vitesse évolue. On ne va pas tout dire, évidemment, mais on peut dire sans doute qu'il y a une accélération du temps et plus globalement une question sur le temps à travers, là, on l'a entendu, la mémoire, les archives, l'histoire et, d'un autre côté, l'urgence.
Nous avons essayé de, avec ce mécanisme qui fait tourner la scène et donc tourner aussi la narrative entre les deux mondes et révéler plutôt les comédiens, déjà proposer une idée de distance alors qu'il y a deux corps, celui d'Adama et celui d'Alison, qui sont très proches sur scène, et comment proposer cette distance déjà à partir de notre regard du public. Ça veut dire que si quelqu'un nous est invisible, même à côté, il y a une distance, mais aussi le regard entre comédiens, sans trop dévoiler non plus, il y a un parti pris sur ne pas se voir. Il y a cette idée de ne pas pouvoir se regarder dans les yeux, et à partir du moment qu'on ne peut pas se regarder dans les yeux, il y a quelque chose d'une intimité, d'une proximité qui manque. Si on se parle même dans la même pièce mais jamais se regardant, on impose une distance. Et c'est à partir de là qu'on a commencé à déployer quelque chose qui est devenu une espèce de grammaire poétique. C'est un peu la tournette et ses vitesses. Plusieurs vitesses deviennent un peu comme la métrique d'un sonnet. On sait que cette vitesse nous impose une quantité de syllabes ou de mots ou de phrases en tempo, un rythme. Et c'est très beau parce que c'est comme la tentative d'écrire un alexandrin. Il faut écrire pour une métrique et marier le souhait de ce qu'on veut transmettre, de ce qu'on veut proposer aussi au jeu des comédiens avec une tournette ou une scène qui tourne, qui a plusieurs vitesses et dialoguer avec ces vitesses presque d'une façon chorégraphique.
Alors on l'a entendu, l'espoir, où trouver l'espoir, changer le monde ou changer de monde, ce sont des immenses questions, mais que vous traitez en fait par le noyau, par une cellule intime qui est donc un père et sa fille. Vous parlez dans la feuille de salle d'amplification par la miniature. Qu'est-ce que ça permet, ça ?
Le théâtre le fait depuis des siècles, cette idée de regarder une petite histoire pour parler de la grande histoire. Parce que le théâtre est, je trouve, aussi cet endroit du public et de l'intime juxtaposé. L'Assemblée humaine du théâtre est un des lieux les plus intimes où on peut se exposer et en même temps, à partir du moment qu'on le fait là, ça devient politique, car public. Et cette juxtaposition, je dis même cette ambiguïté entre ce qui est de l'ordre du personnel ou de l'intimité et ce qui est de l'ordre du public, c'est ce qui fait qu'au théâtre, on peut marier intelligence et émotion, on peut marier poésie et politique, et c'est dans ce territoire-là qu'on voudrait développer cette histoire qui parle effectivement de comment on va faire face à des ressentis, valeurs, idées qui nous habitent aujourd'hui, mais qui seront transformées peut-être à l'avenir. On voit là bien dans le discours que vous avez choisi, et merci parce que c'est un des moments qu'on a beaucoup discuté pendant les répétitions, ce discours des anciennes pierres, les pierres des ruines, cette idée qu'il faut connaître l'histoire, le passé, que je défends absolument, cette idée de connaître son passé pour ne pas répéter les erreurs et construire mieux avec ces pierres du passé, avec cette idée que des nouvelles générations ne vont pas vivre mieux, je pense qu'une nouvelle idée d'espoir très dangereuse, je crois, peut émerger où on défend qu'il ne faut surtout pas connaître le passé pour pouvoir commencer à nouveau. C'est aussi Marguerite Duras qui le disait, détruisons poétiquement, évidemment, détruisons toutes les bibliothèques, toutes les universités, pensons à nouveau. Cette idée-là qui, je pense, qui peut émerger parce qu'on voit déjà aujourd'hui aussi une certaine jeunesse, notamment très impliquée dans la crise climatique et l'urgence climatique et la transition écologique, dire que l'espoir, quand même, c'est un frein parce que si on a trop d'espoir, on attend de façon optimiste et un peu passif que les choses s'améliorent, que les pouvoirs publics prennent les bonnes décisions, alors qu'il faut peut-être être un peu plus désespéré pour produire un changement. Et je pense qu'on commence à avoir un changement de comment les jeunes générations et surtout les prochaines jeunes générations, les enfants des enfants des enfants d'aujourd'hui, peuvent regarder l'idée d'espoir.
Et on voit aussi des milliardaires qui rêvent de coloniser Mars. Ce n'est pas non plus, 2077, là où vous placez votre pièce. Ça n'est pas aujourd'hui, mais ça n'est pas non plus si loin de nous.
On a travaillé avec des scientifiques et consulté plusieurs scientifiques dans l'écriture de cette pièce, surtout pour que ce qui est une pièce plutôt poétique de rapport entre deux personnes est quand même dans un contexte plausible scientifique, et tous les scientifiques ont dit à peu près la même chose, c'est que objectivement la colonisation de Mars, c'est encore de l'ordre de l'exagération. C'est une hyperbole un peu folle, mais en même temps, elle est tellement déjà présente dans notre imaginaire collectif que les choses peuvent changer et ça peut devenir crédible.
Apenas uma brincadeira e foi crescendo, crescendo, me absorvendo. E de repente eu me vi assim, completamente seu. Vi a minha força amarrada no seu passo. Vi que sem você não há caminho, eu não me acho. Vi um grande amor gritar dentro de mim como eu sonhei um dia. quando o meu mundo era mais mundo e todo mundo admitia uma mudança muito estranha, mais pureza, mais carinho, mais calma, mais alegria no meu jeito de me dar. Quando a canção se fez mais clara e mais sentida, quando a poesia realmente fez folia em minha vida, você veio me falar dessa paixão inesperada por outra pessoa. Mas não tem revolta, não, só quero que você se encontre. Saudade até que é bom, melhor que caminhar vazio. A esperança é um dom que eu tenho em mim. Eu tenho sim, não tem desespero não. Você me ensinou milhões de coisas. Tenho um sonho em minhas mãos. Amanhã será um novo dia. Certamente eu vou ser mais feliz.
Caetano Veloso, Sonhos. Et la fin n'est pas due à un problème technique ici, même si on a eu plus tôt dans l'émission pour les personnes qui nous écoutent à l'antenne. Et désolé pour ça, nous sommes donc avec le directeur du Festival d'Avignon, Thiago Rodriguez, que vous avez entendu chanter. On laisse le plaisir aux spectateurs, spectatrices de découvrir comment cette chanson apparaît dans votre pièce La Distance, Thiago Rodriguez. Alors, je le disais, cette distance interroge à sa manière aussi nos façons, nos possibilités d'être ensemble. Ensemble, c'est donc le mot que vous avez fait ressortir comme ça en exergue de cette édition. On se souvient qu'il y a un an, tout le début du festival avait été très marqué par l'actualité politique avec les législatives anticipées après la dissolution. Il y a d'autres questions aujourd'hui, beaucoup d'autres, en France et ailleurs, évidemment. En même temps, vous avez beaucoup dit ces derniers jours et ces dernières semaines en interview, enfin en tout cas vous l'avez dit, qu'il ne fallait pas demander ou attendre absolument des artistes qui collent à l'actualité. Pourquoi est-ce important de rappeler cela, cette liberté de création, tout en affirmant que, et ça n'est pas contradictoire, le festival est un miroir du monde ?
Déjà, je dois présenter mes excuses aux éditeurs, auditrices de France Culture, parce que je ne me suis pas rendu compte que
qu'on avait allumé
ma voix est en train d'être captée. C'est juste que cette chanson qui est dans la pièce, chanson de Caetano Veloso, génie absolu et grande idole pour moi, la chanson Sonhos, pour ceux qui veulent la chercher et entendre en condition parfaite, ça veut dire sans ma voix. Mais je peux pas m'empêcher de chanter avec quand j'entends cette chanson qui était déjà une chanson très forte pour moi, mais maintenant avec sa présence dans cette pièce, je l'ai entendue des milliers de fois et je chante avec et c'est tout. Même pendant la pièce, c'est un peu problématique parce que je suis en régie en train de chanter alors que le public essaie de suivre la pièce. Heureusement, je chante le plus bas possible, mais quand même, il y a des personnes qui sont un peu dérangées, notamment les technicien du spectacle à qui je présente mes excuses publiquement ici sur France Culture. Merci pour la question. Je pense que le Festival d'Avignon, et c'est ça le plus important, il a une responsabilité historique qui est celle d'être un festival de création, de décentralisé et qui œuvre pour la démocratisation d'accès aux arts vivants. Chaque direction, à travers les décennies, a essayé d'interpréter le mieux possible cette partition historique composée par Jean Villard, pas seulement en 47, mais pendant une vingtaine d'années, et notamment jusqu'à 67, quand il fait une réforme lui-même de son projet pour Avignon, et il l'ouvre à d'autres disciplines artistiques, à d'autres nationalités, à d'autres régions du monde, en invitant par exemple Béjart ou Godard en 67. Et cette dimension, elle est très marquée dans l'histoire du festival, ainsi que celle d'être un lieu de débat du monde et des bruits du monde, des injustices du monde, des grands phénomènes de notre temps. Si à la fois le Festival d'Avignon s'engage dans ce débat et il s'engage en priorité avec la vision esthétique des artistes qui souhaitent, eux, en toute liberté, s'engager, et on les suit, on les accompagne, parce qu'être en festival de création, je dois le dire, c'est accompagner les artistes quand ils ont une idée, pas quand ils ont un projet à diffuser, un spectacle déjà accompli, abouti, qui doit circuler. Notre priorité est d'accompagner les artistes quand ils ont une idée et pas encore les moyens et la capacité de le rendre réel, spectacle. Ça veut dire une prise de risque en acceptant la confiance du public pour cette prise de risque, parce qu'on sait que le public avignonnais, qui adore le débat passionné et passionnant, va comprendre qu'un spectacle qui peut diviser les gens est un spectacle nécessaire, parce que c'est tout l'enjeu de la prise de risque de la création. Ça veut dire être un festival qui est avocat de la liberté artistique. Et quand on est avocat de la liberté artistique, on doit comprendre que notre envie de s'engager, de s'impliquer avec les grandes questions du monde doit être en harmonie avec la défense de la liberté des artistes. Ça veut dire que si un artiste veut parler, comme Caroline Gillet, Kubra Academy, souhaite parler de la condition des femmes, jeunes femmes surtout, afghanes, sous le régime taliban, on les accompagne. Mais si nous, on souhaite parler de ça, on ne va pas mettre de la pression sur un artiste pour qu'il traite ce sujet. Il faut accompagner le temps de création. Il faut comprendre que le Festival d'Avignon n'est pas là pour cocher des cases comme dans une expo universelle, pour parler de tous les sujets qu'il faut parler. Il est là pour donner la place en priorité aux artistes et après permettre le débat qui va avec cette création et qui s'engage avec les grands problèmes du monde. Évidemment, cette année, si on invite la langue arabe pour des raisons en priorité culturelle et artistique, parce que c'est notre mission, on invite la 5e langue la plus parlée au monde, avec une richesse patrimoniale énorme, avec une grande diversité contemporaine, avec une dynamique, une vitalité dans les arts vivants des pays qui parlent cette langue. Et ça, c'est le cœur de notre programmation. Nous savons aussi que, comme avec l'anglais, comme avec l'espagnol, il y a des complexités historiques, politiques, spécifiques liées à cette langue qui doivent être aussi traitées dans le festival. Et donc, on le fait, on adresse ces sujets, parfois avec des spectacles, parfois avec des débats, parfois avec une myriade de programmations. Et je dois aussi noter comment cette année, France Culture, avec les fictions France Culture, est en dialogue profond avec cette invitation à la langue arabe. Je profite pour saluer la personne qui a, pendant plus de 20 ans, ou à peu près 20 ans, mené les fictions France Culture au Festival d'Avignon, Blandine Masson, et pour souhaiter les bienvenus. Bienvenue à Oriane Delacroix qui les mène maintenant et qui nous propose une programmation absolument sublime, et donc celle que vous avez déjà annoncée, la présence de Leila Slimani cette année au Festival d'Avignon, aussi parce que l'invitation à la langue arabe a une particularité. Quand on invite l'anglais ou l'espagnol, on a ressenti que beaucoup de notre public du festival venait au festival pour, comme toujours, faire un voyage, et cette fois-ci avec la langue anglaise ou espagnole, ils savaient un peu dans quel parage ils allaient voyager. Mais ils allaient lointain en restant à Avignon. Cette idée de voyage, de découverte du lointain nous intéresse beaucoup. Mais cette année, c'est très particulier. Il y a beaucoup de public qui vient aussi pour la langue arabe, pour faire cet voyage lointain. Mais beaucoup de public qui vient pour faire un voyage chez eux, proche d'eux. Parce qu'il ne faut pas s'oublier, c'est la deuxième langue la plus parlée en France. C'est une langue de la France.
Et cette invitation à la langue arabe, c'est une langue diverse, elle a des présences diverses aussi. C'est-à-dire que finalement, inviter la langue arabe, ça n'est pas seulement l'écouter. C'est pas seulement écouter de l'arabe dans la programmation là qui est faite autour de cette invitation. C'est au-delà de la langue au sens d'entendre des mots en arabe. Il n'y a pas que ça dans cette invitation.
La langue est un point de départ, et le souhait d'inviter une langue au Festival d'Avignon, déjà, c'est de dire qu'à partir du Festival d'Avignon, on fait le choix farouche de dire nous regardons le monde, ou nous choisissons de regarder le monde connecté par des langues plutôt que divisé en frontières et nationalités. Et la langue, elle porte en elle déjà une complexité, elle porte en elle déjà une richesse que parfois on ne trouve pas dans ceux qui sont nos préjugés sur ce qui est un pays ou un peuple. Et invitant une langue aussi, on se permet d'inviter déjà la langue elle-même avec toute son histoire, tous ses problèmes, tous ces espoirs, tous ces merveilles. On traite la question de l'international et du pouvoir des mots, qui sont deux chromosomes fondamentaux du code génétique du festival, le pouvoir des mots et la dimension internationale. On marie ces deux dimensions en invitant une langue, mais aussi on va au-delà de la langue sans l'abandonner. Cette année, par exemple, si on regarde l'invitation à la langue arabe, on a effectivement du théâtre arabe, on a beaucoup de poésie. De langue arabe en collaboration avec l'Institut du monde arabe, le spectacle Nour. On a la musique et la poésie arabe avec le concert d'Oum Kalsoum à la Cour d'honneur le 14 juillet, ce qui est aussi symbolique, avec des voix de femmes issues du monde arabe, mais aussi de France, qui chanteront le répertoire de l'Astre de l'Orient. Mais on a aussi beaucoup de danse, beaucoup de danse qui parle, parce que la danse n'est pas muette, et une danse qui a un rapport parfois très inventif, très libre avec la langue arabe, mais qui aussi met sur scène le rapport du corps avec la société dans plusieurs pays de langue arabe. Et dans ce sens-là, on a fait le choix, tout en restant admiratif et passionné du théâtre langue arabe. D'ailleurs, on aura pas mal de théâtre langue arabe les prochaines années, parce que programmer la langue, c'est aussi faire des découvertes que ne viennent pas immédiatement
des
à cette édition. C'est surtout ouvrir des chemins qui continuent à fertiliser les prochaines éditions du Festival d'Avignon. On sait déjà qu'il y a des projets qu'on aurait voulu présenter cette année de théâtre de langue arabe qui seront plutôt présents en 2026. Je ne vais pas dire lesquels, il faut attendre un peu. Je dévoile plus tard, en avril, on aura le rendez-vous, c'est trop tôt. Maintenant, il faut vivre cette aventure du festival. Mais la danse, avec une grande diversité, est très présente d'Ali Charour à Selma et Sofiane Wissi à Mohamed Tokabri. Il y a une présence très forte de la danse issue du monde arabe, avec un lien très fort avec la parole, avec l'écriture et avec la langue ou les langues arabes.
Parler du monde à travers les arts et parfois aussi plus directement. Voilà, on mentionne ici que vous avez signé avec d'autres artistes présents au festival, Thiago Rodriguez, une tribune publiée en début de semaine dans Télérama pour déclarer votre solidarité avec le peuple palestinien et demander l'arrêt des massacres en cours à Gaza. Tribune publiée, dit le texte, parce qu'un tel festival est aussi celui de la parole publique et des exigences civiques, ce qui fait écho à une déclaration lue en 95, il y a 30 ans, dans la Cour d'honneur, pour dénoncer les massacres perpétrés en ex-Yougoslavie.
Le Festival d'Avignon reste aussi ce lieu où les artistes peuvent participer civiquement et exprimer ses engagements et libérer sa parole, indépendamment du contexte politique du pays ou du continent. Cette idée que le Festival d'Avignon peut être un lieu de débat doit aussi s'appliquer aux artistes au-delà de sa création artistique. Il y a une forte, forte tradition, et c'est pourquoi je crois dans cette tribune que j'ai signée aux côtés de plusieurs artistes qui sont présents au festival, il y a une référence à l'histoire du festival. Il y a encore une fois une responsabilité artistique dans ce festival de permettre ceux qui, malheureusement, on voit être menacés, pas seulement en France, mais dans d'autres pays, dans plusieurs territoires, qui est la possibilité d'un artiste de s'exprimer civiquement, de participer et s'impliquer dans la société, ce qui est quelque chose que, par exemple, Jean Villard défendait profondément. Et dans ce sens-là, cette tribune, comme d'autres prises de position d'artistes au Festival d'Avignon, sont très bienvenues.
21 pays représentés au festival cette année, la moitié environ des spectacles qui sont des créations, en tout cas 32 des créations de cette année, 20 créées ici. C'est aussi ça le festival, un moment où la création souffre, permettre justement de soutenir la création, parce que créer un spectacle ici, c'est évidemment bénéficier d'un élan certain. Merci beaucoup Thiago Rodriguez. La distance est jusqu'au 26 juillet à midi à l'autre scène du Grand Avignon à Vedaigne. Il y a aussi certains jours des représentations à 17h30, puis une grande tournée à partir de la rentrée. Merci.
Merci.
Ma grand-mère racontait que quand j'étais enfant et qu'elle me rendait visite, je l'accueillais toujours par ces mots « Elbella, Elbella, Elbella », ce qui signifie dans un arabe enfantin « dehors, dehors, dehors ».
Et nous sommes bien dehors, toujours au cloître Saint-Louis, en direct et en public du Festival d'Avignon, avec jusqu'à 13h, Leïla Slimani, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous à quelques heures de la lecture en musique d'un texte inédit, Assaut contre la frontière, que vous avez écrit pour Avignon, pour les fictions de France Culture. Ce sera à 20h dans la cour du musée Calvé et à la radio, bien sûr. Thiago Rodriguez est à votre place il y a quelques minutes. Vous vous êtes croisés pendant le journal. C'est à la fois un échange avec lui et avec l'équipe des fictions qui a abouti à cette proposition, c'est ça ?
Oui, absolument. J'ai rencontré Thiago à Lisbonne, où j'habite. Il m'a fait cette magnifique proposition d'écrire un texte inédit à un moment où la langue arabe était la langue invitée. Donc, on avait l'impression que voilà, tout se croisait. Et cette langue qui occupe à la fois une place importante dans ma vie, mais vous le verrez aussi dans le texte, qui est aussi une absence dans ma vie. C'était la première fois que j'avais l'occasion de pouvoir en parler de manière à la fois très, très intime, mais aussi un peu politique.
C'est vous qui avez choisi d'écrire sur votre rapport à la langue arabe.
Oui, absolument. Je me suis rendu compte à la fin de l'écriture de ma trilogie qu'en réalité, cette question de mon rapport à la langue arabe avait travaillé tout au long de l'écriture de cette histoire familiale, cette absence de la langue, cette honte par rapport au fait de ne pas la maîtriser comme je devrais la maîtriser. Et donc, ça m'a paru évident, oui, assez rapidement que j'allais écrire là-dessus.
Je fais souvent le même cauchemar. C'est un cauchemar terrifiant, dont le décor change sans que la peur, elle, s'atténue. Je suis dans la salle d'un tribunal. Ça pourrait être une école ou une église, puisque je me tiens debout, derrière une rangée de bancs en bois sombre. Autour de moi, il n'y a que des hommes. Je sais que ça va être mon tour de parler. J'ai la gorge sèche, les mains moites, j'ai honte. Sans bien savoir pourquoi. Un juge, au visage de souris, aux dents déchaussées, m'invite à parler. Je commence par me justifier. Je parle très vite, avec agitation. Je parle en français. Le juge me coupe sèchement. Il me dit : On n'est pas en France ici. Parle en arabe. Les larmes me montent aux yeux. Et l'angoisse me paralyse. Je me tourne vers l'homme à mes côtés, un homme sans visage, mais je sais, comme on sait dans les rêves, qu'il ne peut pas m'aider. Je cherche mes mots. Rien ne vient. Et je comprends alors que j'ai perdu. Et que je ne pourrai jamais prouver mon innocence.
Extrait, c'est le début de ce texte « Assaut contre la frontière » que nous pourrons entendre ce soir à 20h dans la cour du musée Calvé, ici à Avignon et sur France Culture, avec la musique composée et interprétée par Moqueux, une réalisation de Christophe Hoquet assistée d'Aurélie Miermont. Vous parlez à un moment dans ce texte, Leïla Slimani, d'une langue fantôme. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette image ?
Oui, tout le texte a pour but d'essayer d'expliquer le rapport très très complexe que l'on peut avoir dans les pays, notamment du Maghreb, avec nos différentes langues. Nous venons de pays, là je parle en particulier du Maroc, qui sont des pays multilingues, des pays où plusieurs langues vivent les unes à côté des autres, mais où elles n'ont pas toutes le même statut et où elles ne sont pas toutes valorisées de la même manière. J'ai grandi dans le Maroc des années 80, où la langue que l'on parle au quotidien, qui s'appelle la Darija, est une langue qui n'a n'avait aucun statut officiel, de la même manière qu'à cette époque, la langue berbère, qui 80% des Marocains sont d'origine berbère, était une langue qui n'avait aucun statut officiel. La seule qui était reconnue, valorisée, voire sacralisée, était l'arabe classique, qui est une langue qu'on ne parle pas au Maroc, qui est simplement la langue écrite, la langue de l'administration, la langue du pouvoir. Et donc moi, je parlais la Darija, mais la langue arabe classique, je n'ai pas réussi sans savoir... expliquer pourquoi, mais je n'ai jamais réussi à la maîtriser, je n'ai jamais réussi à l'apprendre. Mes parents n'ont pas réussi à me la transmettre. Et puis évidemment, avec l'immigration, le fait que je sois partie m'installer en France, la langue a aussi progressivement disparu. Le vocabulaire devient plus mince, on commence à chercher ses mots, on se sent plus étranger à chaque fois qu'on revient, on a de plus en plus de mal à s'expliquer. Donc cette langue devient une langue fantôme dans la mesure où on sait qu'elle a été là et on a l'impression d'en avoir été amputée. Et tout comme avec un membre fantôme, on continue à sentir sa présence tout en étant incapable d'utiliser ce membre et d'utiliser cette main ou cette agilité.
C'est intéressant ce que vous dites sur cette langue, donc la Darija, langue vernaculaire du Maroc. Vous écrivez langue de la créolisation, synthèse du romain, du phénicien, de l'amazigh, de l'arabe, et qui a absorbé également des influences françaises et espagnoles. Là, on repense à ce que disait tout à l'heure Thiago Rodriguez sur la diversité de cette langue arabe, et puis on pense aussi à celles et ceux qui considèrent cette langue comme totalement étrangère au continent européen, ce qu'elle n'est pas.
Oui, absolument. C'est une des autres parties du texte. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé en arrivant en Europe, c'est à quel point les Européens, et en particulier ces 25 dernières années à cause du contexte politique, ont tendance à regarder la civilisation arabe et le monde arabe comme extérieur au leur, comme étant une autre civilisation. Et ils nous prédisaient même d'ailleurs un choc entre ces civilisations, une impossibilité des uns et des autres à coexister, à s'intégrer dans les sociétés des uns et des autres. Alors que mon expérience était totalement différente. J'avais le sentiment, moi qui habite à Lisbonne, qui est une ville en partie arabe, moi qui connaissais très bien l'Andalousie pour y avoir passé beaucoup de vacances, mais il suffit d'aller également à Palerme, d'aller en Corse, d'aller dans beaucoup, beaucoup d'endroits d'Europe pour se rendre compte que la civilisation arabo-musulmane a fait partie aussi de la construction de la civilisation européenne et occidentale de manière plus générale, et que donc cette langue n'est pas une langue étrangère. Quand on parle le français, il y a des mots arabes dedans. Quand on parle encore plus l'espagnol ou le portugais, l'arabe est tout le temps présent, même dans les sonorités. Donc c'est aussi un des aspects importants du texte, sortir de cette idée que cette langue serait irréductiblement étrangère à la civilisation européenne.
C'est l'une des frontières évoquées dans cet assaut contre la frontière. Il y en a d'autres, parce qu'il y a aussi les frontières, comment dire, sociales, culturelles. Vous parlez aussi de ce moment finalement où le français c'était la grande littérature, la grande culture.
Oui, absolument. Et ce que je vous disais sur la Darija, c'est aussi une question sociale. La Darija est considérée comme la langue du peuple, comme une langue qui n'est pas noble, comme une langue qui est vulgaire. C'est d'ailleurs à cause de ça que pendant longtemps, on n'a pas voulu l'enseigner ou la mettre en valeur. Et après les révolutions arabes, après le printemps arabe, on a vu vraiment un changement autour de cette langue, la Darija, qui par exemple est la langue des réseaux sociaux, parce que c'est la langue des jeunes. Donc ils ont commencé à l'écrire en mélangeant des lettres latines, des chiffres. Aujourd'hui, dans le cinéma maghrébin, dans la musique maghrébine et même dans l'édition, on commence à donner enfin une place à cette langue. Et c'est pour moi aussi une reconnaissance sociale. C'est une reconnaissance aussi d'un discours populaire qui a été pendant très longtemps écrasé par les dictatures. Donc les langues, elles ont aussi toujours à voir avec des frontières. Il y a des rapports de caste, des rapports de clan, une manière d'idéologiser les langues contre laquelle je me suis toujours insurgée.
Effectivement, ce qu'on perçoit dans ce texte, c'est tout ce qu'il peut y avoir de rapports de domination, de pouvoir, de la manière dont les langues portent ou imposent des visions du monde qui évoluent au fil des conquêtes, des guerres. Et c'est aussi donc ça qu'on lit dans ce texte, ce qui nous ramène à ce qu'on disait aussi plus tôt avec Thiago Rodriguez, cette question de l'amplification par la miniature. C'est très clair que c'est ce que vous faites, Leïla Slimani, pas seulement dans ce texte-là, du reste aussi dans vos romans, mais de partir finalement de quelque chose de très intime. Là, c'est très intime ce que vous nous racontez sur votre rapport à la langue arabe. Vous parlez de vous et en même temps, bien évidemment, vous parlez au-delà de vous aussi.
Oui, mais je crois que c'est le travail d'un romancier, c'est de partir de ce qu'il y a de plus intime pour toucher à l'universel. On a souvent le tort de croire, quand on commence une vie d'artiste, que ce que l'on va raconter est absolument unique, et que si on est amené à devenir un artiste, c'est parce qu'on a quelque chose à dire que personne n'a jamais pensé ou n'a jamais ressenti. Mais plus on travaille et plus on se rend compte que c'est absolument l'inverse. Plus on va tout au fond de soi et plus on découvre des choses qui sont communes avec les autres. Et à mon sens, et c'est pour ça que j'ai repris cette phrase de Kafka, assaut contre la frontière, la vie d'un écrivain, c'est celle-là, c'est de faire assaut contre la frontière constamment. Toutes les frontières qui s'élèvent entre les êtres humains et qui rendent difficile la communication, l'amour, l'empathie. Un écrivain est là pour briser des murs.
Et pour être libre de sa création, comme le sont les artistes ici, et ça aussi on en parlait.
Oui, absolument. Et c'est un des grands bonheurs d'être là à Avignon, c'est d'être témoin de cette liberté de dire, cette liberté de montrer, cette liberté de raconter. Et c'est d'être aussi, voilà, admiratif de cette chance. Je ressens aussi beaucoup de gratitude, la chance que l'on a de pouvoir vivre dans un espace d'expression totalement libre.
On y pense évidemment, et dans le texte, il y a des passages de votre trilogie. Vous l'avez cité, Le Pays des Eaux, dont le dernier volet, J'emporterai le feu, a été publié il y a quelques mois. Je voudrais revenir sur ce que vous disiez au tout début, que vous dites aussi dans le texte, finalement, que vous êtes rendu compte que la question à l'origine, peut-être au centre de cette trilogie, était celle-là, pourquoi est-ce que je ne parle pas ma langue ? Justement, ça, cette question, vous êtes aperçu que c'était elle, vraiment à la fin de l'écriture ? À la fin, pas tout à la fin. Pendant ou avant.
Non, tout à la fin, vraiment, et au moment des premières rencontres avec des lecteurs, parce que je me suis rendu compte que quelque chose avait disparu en moi, et c'était la honte. La honte de ne pas être la bonne Marocaine que j'étais censée être, de ne pas parler aussi bien que je voulais ma langue. Et j'ai découvert dans le regard de mes lecteurs de la tendresse, de la compréhension, de l'empathie. J'ai découvert que j'avais réussi, en tout cas à mon petit niveau, à défendre quelque chose qui compte beaucoup pour moi, l'idée d'une forme de diversité dans nos sociétés, dans les sociétés maghrébines et même souvent dans les sociétés arabes. Il y a une difficulté à défendre l'idée de la diversité, qu'on n'est pas tous marocains de la même manière, qu'on n'est pas tous musulmans de la même manière, qu'on a chacun des histoires différentes, qu'on est tous singuliers et qu'il n'y a pas à pointer du doigt celui qui est différent, à le marginaliser et à l'humilier, à lui faire ressentir une forme de honte de ne pas être à la hauteur. Et cette honte, elle avait disparu grâce à l'écriture et grâce au regard des lecteurs sur ces personnages et sur mes livres.
Une question encore, ce texte, vous l'avez écrit, vous allez le dire tout à l'heure, en public. Voilà, ça c'est encore autre chose, non ? Comment vous abordez cet aspect-là des choses ?
Honnêtement, j'essaye de pas trop y penser parce que ça m'angoisse beaucoup. Vous savez, nous on vit beaucoup dans une bulle, les écrivains, et puis on le lit dans notre tête. On a notre propre manière de lire notre texte. Donc j'essaye d'écouter les conseils qu'on me donne et d'être une bonne élève. J'espère ne pas être trop décevante ce soir. On verra.
On pense pas. Les extraits qu'on a entendus sont issus d'un filage qui a eu lieu hier soir. Bon, je pense qu'il n'y a pas de quoi être déçu. Mais juste dernière chose rapidement. Mais ce que vous disiez par rapport à la honte, etc. Bon, c'est aussi quelque chose de dire. Tout ça dans un micro et voilà.
Ah oui, c'est absolument. Puis d'avoir à la fois un public en face de soi, mais en même temps d'être dans un exercice très intime qui est celui de la radio. Pensez ouais. aussi que des gens vont l'écouter ailleurs. Donc il faut être à la fois, je crois, généreux et en même temps dans quelque chose d'assez dans l'intériorité. Donc voilà, on va essayer de trouver un bon équilibre.
Assaut contre la frontière, votre texte inédit, donc créé par vous-même, Laïla Slimani, ce soir avec la musique composée et interprétée par Moqueux. C'est à 20h dans la cour du musée Calvé et en direct sur France Culture avec une réalisation de Christophe Hoquet assistée d'Aurélie Miermont. Bien sûr, votre trilogie Le Pays des Autres, publiée comme vos autres livres, est aux éditions Gallimard. Merci beaucoup, Laïla Slimani.
Merci à vous.